Liebe Zuschauerinnen,
chers téléspectateurs, chers amis, bienvenue pour cette 9e partie de notre série intitulée L'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture du livre portant le même titre. Il s'agit d'une œuvre d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine et qui réunit le contenu d'entretien avec Gabrielle, la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque. Pour débuter notre émission d'aujourd'hui, remettons-nous en mémoire quelques phrases de la préface de ce livre qui peuvent nous aider à prendre conscience de l'importance de ce thème pour notre vie. Ressentir l'unité de la création et comprendre que tout, de ce qu'il y a de plus petit à ce qu'il y a de plus grand, est issu d'un ordre cosmique qui a son origine dans l'intelligence universelle Dieu, est le plus grand pas d'évolution que l'homme puisse faire. C'est la base de tout développement pacifique dans la vie de chacun, tout comme dans la grande famille de l'humanité, dans notre vie avec les animaux, les plantes, la nature tout entière, et dans notre relation avec toute forme d'existence. Chers amis, il vaut vraiment la peine de faire tous les efforts possibles pour parvenir à ce magnifique but. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre apprentissage de ce qui peut nous rapprocher de l'unité universelle et nous reprenons la lecture de notre manuscrit au chapitre suivant. Nous apprenons à donner forme au grand jardin d'Éden, tout d'abord en nous-mêmes.
Liebe Mitmenschen, machen Sie mit.
Chers amis, vous aussi, donnez forme au grand jardin d'Éden, tout d'abord en vous-même. Nous l'avons vu, les règnes animal, végétal et minéral sont une partie de nous-mêmes, en tant qu'essence, en tant que source de vie au plus profond de notre âme. Sur la terre comme au ciel, qu'il en soit ainsi en nous. Toutes les créatures de Dieu, tous les êtres vivants, tous les animaux, les règnes de la nature, toutes les formes de vie veulent vivre en harmonie avec nous, les êtres humains. Ils sont dans le courant universel, dans l'action créatrice incommensurable de leur Créateur, dans le processus d'évolution qui a lieu au sein du berceau de la sagesse universelle, le berceau de la conception et de la création de Dieu.
Faites-vous aussi preuve d'estime envers la vie et respectez-la. Rapprochez-vous, vous aussi, du noyau central de l'âme dans la conscience que l'un universel est en nous, en chaque être vivant, ainsi que dans toutes les formes de vie de la nature. Voici une phrase à se remémorer et qui pourrait donner une orientation à notre vie quotidienne. Les règnes de la nature, tous les animaux issus du souffle de Dieu, qu'ils vivent à la surface de la terre, dans la terre ou dans les mers et les cours d'eau, font partie de nous, les êtres humains. Dieu, notre Père céleste, est l'unité universelle, le Dieu parlant qui se trouve dans sa création et également en nous, dans le noyau central, au plus profond de notre âme. Prenons conscience que tous les êtres vivants et toutes les formes de vie, les créatures de Dieu, ressentent ce qui émane de l'homme. La vie intérieure des animaux se déroule de manière semblable à la nôtre en une succession d'images. Ils ne formulent pas de pensées, mais laissent une image se former dans leur conscience d'animal. Leur perception des êtres humains commence tout d'abord par une image qu'ils se font à partir de leur odorat. On pourrait parler d'image olfactive.
Apprenez avec nous et ne vous contentez pas de dire « c'est possible » ou « je n'y crois pas ». Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre de faire pour nous l'expérience de ce qui a été dit. Chacun de nous est appelé à vivre sa journée dans la conscience que tout, véritablement tout, est vivant. Autrement dit, nous apprenons jour après jour. Commencez par vous-même, si vous le souhaitez, car c'est là un critère essentiel de la vie éternelle. Vous êtes libre. Rien ne nous contraint à quoi que ce soit. Selon la loi éternelle, qui, entre autres, est liberté, ni vous, ni aucun être humain ne peut être contraint à quoi que ce soit, y compris à croire en quelque chose qui ne peut pas être prouvé. C'est pourquoi nous apprenons à comprendre et à faire nous-mêmes l'expérience que notre vie est unité et que la vie de nombreux animaux se déroule en images, tout comme la vie de chaque être humain, à la différence que, chez les animaux, les images ne sont pas embellies ou teintées de pensées. La vie véritable est une communication constante avec le Créateur, avec Dieu, notre Père Céleste, l'un universel, qui est l'amour, y compris l'amour pour le prochain.
Liebe Mitmenschen, lernen Sie.
Chers amis, apprenez. Apprenons tous à regarder à l'intérieur de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. C'est seulement lorsque nous pensons consciemment et que nous parlons lentement que nous remarquons que notre vie, également nos actes, se déroule en images. Les images que nous percevons en nous correspondent à ce qui se déroule en nous. Si vous observez consciemment ces successions d'images, c'est-à-dire si vous les analysez, vous verrez rapidement que certaines sont neutres et que d'autres sont teintées de vos pensées. Tout est, pour ainsi dire, enregistré dans le fichier du film de notre vie. Ces successions d'images montrent qui nous sommes vraiment. Si nous les regardons avec sincérité, elles nous montrent nos vrais traits de caractère, qui marquent également notre aspect extérieur.
Tant que nous ne transformons pas les images du film de notre vie et le contenu de nos cinq composantes de façon positive, nous ne parviendrons pas à transformer positivement notre caractère, notre être tout entier. Si nous donnons un autre contenu à nos images, si nous les nourrissons de bonté et d'amour, notre caractère change. Nous devenons meilleurs, plus avenants, plus aimables, plus flexibles et plus sociables. L'être humain veut toujours des preuves. Dans ce processus, nous sommes nous-mêmes la meilleure des preuves. Car lorsque le film de notre vie devient positif, lorsque les images qui se succèdent en nous deviennent plus lumineuses, cela se reflète sur les traits de notre visage et sur notre aspect extérieur dans son ensemble. Nous sommes donc nous-mêmes cette preuve que nous cherchons, et le miroir nous le montre. Apprendre signifie tout d'abord être soi-même l'objet de l'apprentissage, autrement dit, observer de plus près ses propres sensations, sentiments, pensées, paroles et actes, en se demandant si nous sommes véritablement celui ou celle que nous croyons être.
Chers amis, nous poursuivons la lecture. Tous les êtres vivants et toutes les formes de vie issues de la création de Dieu sont des êtres de l'unité universelle. Voulez-vous toujours apprendre avec nous? Nous apprenons à ressentir nous-mêmes et à faire l'expérience que Dieu, le puissant Créateur, dispense la vie à tous les êtres et à toutes les formes de vie qu'il a créées. Maintenant, vous ne cheminez plus tel un aveugle spirituel sur cette terre. Vous faites l'expérience que l'un universel conçoit et donne forme à sa création. Vous reconnaissez que chaque forme de vie est unique, qu'il s'agisse d'un animal, d'une plante ou d'un minéral. Parmi ces formes, il n'en est pas deux qui se ressemblent exactement. Pourquoi ? Parce que chaque être vivant rayonne un aspect différent de la conscience universelle, ce qui se montre également à son aspect extérieur.
Les églises institutionnelles ont donné aux hommes une fausse image des cieux qui serait tel un mirage où l'activité principale serait d'adorer Dieu, voire même de le louer en chantant des Alléluia. La réalité est complètement différente. Il est bien sûr impossible de décrire dans tous ses détails, avec nos mots, le royaume de Dieu aux sept dimensions. Cependant, chacun de nous peut redécouvrir progressivement ce qui est au plus profond de son âme, la vie de l'infini, l'amour pour Dieu et pour le prochain, la paix et le sentiment que la patrie éternelle est en lui, en chacun de nous. La patrie éternelle est le royaume de Dieu dans lequel les familles spirituelles composent la grande famille en Dieu, notre Père céleste. Dans le royaume de Dieu, les plantes et les animaux vivent en unité avec les êtres divins. Les jardins éternels de l'existence pure, du royaume de Dieu, n'ont pas de clôture. Tous les édifices sont faits de substances primordiales pures et, comme tout ce qui les entoure, sont dépourvus de toute pesanteur. Dans ce cadre, rappelons-nous les paroles de Jésus de Nazareth. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vous ai préparé une place ?» Dans les demeures des plans célestes vivent les familles spirituelles, les couples de duel, c'est-à-dire les parents duels et leurs enfants. Cependant, tout est unité, tout est inclus dans la grande famille du Dieu Père-Mère.
Chers amis, certains se posent cette question. Comment est-il possible qu'il y ait dans les cieux des couples de duel ou parents duel et des enfants nés de la dualité? Dans le temporel, on retrouve des analogies avec le royaume de Dieu. Nous apprenons ce que nous, les êtres humains, percevons de notre monde temporel sur la terre, présente des analogies avec le royaume spirituel, mais est constitué d'éther de lumière dégradée, c'est-à-dire d'une énergie chargée négativement, dans laquelle de nombreux êtres humains végètent dans la pensée de la chute, qui dit « sépare, lie et domine ». Voici un exemple qui peut nous aider à mieux comprendre. Une bonne mère qui, après avoir porté un enfant en son sein, le met au monde, ne se demandera pas s'il lui appartient, si elle en est la mère. Un bon père fidèle ne demandera pas si c'est lui qui a conçu l'enfant ou si ce nouveau-né fait partie de la famille et si les autres enfants sont bien ses frères et sœurs. Dans toute bonne famille, dans toute famille intacte, il va de soi que la mère est bien la mère de l'enfant et que le père en est le concepteur. Les enfants vivent avec leurs parents. Dans le royaume de Dieu, les enfants vivent auprès de leurs parents et en même temps, dans la grande famille. C'est cela la vie véritable, le principe uni et soi, la vie qui ne connaît pas la pensée de la chute et qui est ainsi éternelle.
Également, tous les animaux et les plantes, et aussi ceux qui vivent aux côtés des êtres humains, appartiennent à la grande famille de Dieu. C'est dans cette conscience que nous devrions nous comporter envers eux. Car, tout comme nous, les êtres humains, ils sont des êtres de l'unité universelle. Apprendre cela enrichit intérieurement et conduit sur Terre à une vie spirituelle. Selon des lois des reins, les êtres de la création qui vivent parmi nous, dans le temporel, tels que les animaux, les plantes, ainsi que les forces d'uranium minéral, sont ramenés dans le royaume de l'existence pure, à leur forme originelle, au niveau d'évolution de leur conscience et préparés à l'étape d'évolution suivante dans le berceau divin de la création. Toutes les formes de vie qui vivent sur la terre ou dans la terre, dans les rivières ou dans les mers. Tout comme nous, les êtres humains ne sont que des hôtes sur terre.
Le hasard n'existe pas. Pourquoi tant d'espèces animales disparaissent-elles à notre époque ? D'une part, en raison des conditions de vie que l'homme leur impose, mais aussi parce que Dieu, le Créateur, rappelle à lui ses créatures, les animaux, ainsi que de nombreuses espèces végétales. Ce rapatriement nous rappelle qu'au commencement, les animaux et les plantes apparurent en premier sur la terre, et plus tard seulement les êtres humains. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui croit en Dieu comprend ce qui est en train de se produire dans l'infini. Avançons dans notre apprentissage. La bestialité dont les hommes font preuve et le mal qu'ils commettent à l'égard des animaux répondent à l'appel du Dieu païen, le Dieu de l'enfer. Croire en lui et accomplir sa volonté implique de recueillir un héritage atroce, car ce que l'homme sème, il le récoltera.
Chers amis, afin de pouvoir donner forme au grand jardin d'Éden en nous-mêmes, demandons-nous, qui est-ce qui nous sépare de l'unité universelle, de la communication avec Dieu, le Créateur éternel? Je lis la réponse donnée dans le livre sur lequel est basée notre émission. Nous apprenons en nous observant nous-mêmes. Nous sommes en fait incarnés afin de saisir la chance que nous offre la vie terrestre de prendre conscience de qui nous sommes vraiment au plus profond de notre âme, des êtres de l'unité. C'est pour cette raison que nous voulons apprendre à explorer le contenu de nos pensées pour prendre connaissance de ce que nous avons enregistré dans le film de notre vie et comprendre pourquoi il ne nous est pratiquement pas possible de percevoir Dieu, le Créateur de toute existence, notre Père céleste, au plus profond de notre âme, et ainsi, pas non plus, dans les animaux, les plantes et les minéraux. Qu'en est-il de notre évolution? Comment retourner à notre origine, à l'unité universelle, Dieu en nous? Dans la suite de nos explications sur le thème « L'unité universelle parle », la parole de l'Esprit créateur universel, nous allons voir combien il est essentiel d'apprendre constamment, car chaque instant de notre vie terrestre est précieux.
Nous avons appris que chacun a son film de vie, composé du contenu bien spécifique de ses propres sensations, sentiments, pensées, paroles et actes. Ce film se déroule et enregistre en permanence, car tout être humain agit chaque jour et même à chaque instant sur lui-même, ainsi que sur ses prochains, ceci en fonction du déroulement de sa journée et du contenu de ces cinq composantes citées précédemment. Il n'existe rien qui ne soit enregistré dans l'univers. Rappelons-nous les paroles de Jésus de Nazareth. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés.
Ce sont des paroles auxquelles il vaut la peine de réfléchir. Chers amis, tout est enregistré et tout est conscience. Notre conscience se montre aussi pendant notre sommeil. Il n'existe pas de néant, pas même pendant le sommeil. La nuit, pendant notre sommeil, nous rêvons. La plupart du temps, ce sont des rêves indéfinissables qui proviennent de notre conscient, de notre inconscient et de notre âme. Ce que nous avons encore en conscience, après le réveil, peut nous dire certaines choses, car nos rêves viennent des différentes données personnelles contenues dans notre film de vie, des données qu'il faut peut-être analyser pour y découvrir les éventuels comportements erronés qui s'y manifestent, afin de libérer de plus en plus notre âme de ces charges, dans la mesure où nous parvenons à mettre en ordre ce que nous reconnaissons et à changer de comportement.
Tel que nous l'avons déjà évoqué, chacun de nous enregistre des images qui correspondent à son comportement. Le contenu du film de vie de chacun étant marqué par des aspects tout à fait différents, il est rare que nous nous comprenions mutuellement. Certes, nous pensons avoir compris notre prochain, et il est même possible que nous acquiescions à ce qu'il nous dit. Mais l'avons-nous vraiment compris? La plupart des gens se sont détournés de l'unité universelle, de la communication universelle qui relie et unit les uns avec les autres, et ont créé leur petit monde personnel du « moi », si bien que l'on ne se comprend pratiquement pas, voire pas du tout. On entend souvent dire que l'homme est le microcosme dans le macrocosme de matière grossière. En dépit de cette connaissance, nous agissons en solitaire sur le sentier battu de notre vouloir qui veut toujours avoir raison. Par un tel comportement, nous avons marqué le film de notre vie qui reflète ce que nous sommes encore. Nous avons désappris à comprendre l'unité universelle cosmique en nous qui veut nous dire « Relie-toi avec le noyau central, avec toutes les forces pures, avec Dieu dans tous les êtres humains et tous les êtres vivants, dans toutes les formes de vie, et sois en lui l'un universel de toute éternité, Dieu. »
Si nous voulons retourner à l'unité universelle pour apprendre à nous comprendre et à comprendre les autres, mais aussi nos frères et sœurs de la création, les animaux, les plantes et les minéraux, toutes les forces pures de la création, du cosmos universel éternel, nous devons toujours à nouveau nous demander ce qui nous empêche encore de vivre dans l'unité universelle. Parfois, nous nous disons, j'ai déjà reconnu et mis tant de choses en ordre que je devrais maintenant pouvoir m'immerger dans l'océan de la vie. À peine avons-nous émis cette pensée que déjà s'annonce la prochaine goutte ou s'abat la prochaine vague qui nous montre ce qui est encore à mettre en ordre. Il ne faut pas se décourager. Peu à peu, nos journées deviendront plus lumineuses.
Wir lernen. Die Kindschaftseigenschaft.
Apprenons à accepter les qualités de la filiation divine, la bonté, l'amour et la douceur, c'est-à-dire à prendre tout d'abord conscience qu'en Dieu, notre Père céleste, nous sommes des filles et des fils de Dieu absolument libres. Dans notre langage humain, ces qualités sont également nommées patience, amour et miséricorde, car ce sont les étapes qui mènent à notre origine véritable, la bonté, l'amour et la douceur. Ne dites pas « c'est difficile à accepter, je ne suis qu'un être humain ». Ne vous rendez pas la vie difficile avec de telles paroles. Si nous incluons plus souvent dans nos réflexions des valeurs éthiques et morales élevées, beaucoup de choses se résolvent d'elles-mêmes, car automatiquement nous essayons de prendre conscience de nos pensées, de nos paroles et de qui nous sommes en réalité. Apprenez. Apprenons tous à vivre dans celui qui nous aime et dont nous sommes les fils et les filles au plus profond de notre âme.
Il dépend toujours de nous que nous nous tournions vers la vie véritable ou que nous nous séparions de notre être véritable. Cela dépend de ce que nous avons enregistré et enregistrons encore, de notre stock de données personnelles qui, en de nombreux aspects, sont contre la loi de l'unité universelle. Il en est ainsi parce que la plupart des gens se sont laissés influencer par les dieux païens dont ils restent aujourd'hui encore les disciples. En effet, ces dieux païens se manifestent sans cesse sous des noms institutionnels et virtuels différents. Ainsi dissimulés, ils prêchent habilement des enseignements contraires à ceux du Dieu véritable et de son Fils, autrefois incarné en Jésus de Nazareth. De nombreux disciples du culte païen, appelé parfois aussi culte de Baal, se comportent conformément à ces enseignements et enregistrent jour après jour, à chaque instant, ce que de faux dieux leur font croire, sans en faire l'examen et se demander si cela est juste. Ces sermons deviennent alors des schémas comportementaux qui s'introduisent dans notre comportement. Ils deviennent nos pensées, nos paroles, ou encore ce que nous taisons.
Soyons attentifs. Notre système nerveux, par exemple, est un système d'alarme fiable. Il émet, lui aussi, des signaux qui nous donnent des indications sur ce que nous sommes réellement et que nous montrons au grand jour, bien souvent sans le vouloir, au lieu de le mettre en ordre à temps. Même s'ils surgissent de manière irréfléchie et incontrôlée du film de notre vie ou de notre comportement incontrôlé du moment, ces aspects proviennent bel et bien des cinq composantes de notre vie, c'est-à-dire de nos sensations, sentiments, pensées, paroles et actes, avec lesquels nous jonglons bien souvent. Afin de trouver qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire ce que nous avons enregistré dans notre mémoire, dans le film de notre vie, ou encore ce que nous sommes en train d'enregistrer, il nous faut être attentifs à nous-mêmes en nous observant, en prenant conscience de ce que nous sommes vraiment en train de penser ou de dire, ce qui éventuellement nous irrite ou nous énerve. Lors d'une dispute, par exemple, nous pouvons nous demander qui l'a déclenché et pourquoi nous nous y sommes laissés entraîner, etc. Ainsi, progressivement, nous apprenons également à percer à jour notre prochain, c'est-à-dire à reconnaître qui il est véritablement, lui aussi.
Le mot d'ordre est « soyons attentifs », car tout ce que nous émettons revient vers nous. Répétons-le, tout, absolument tout notre comportement, qu'il s'agisse de nos pensées, de nos paroles ou de nos actes, s'exprime et s'enregistre sous forme d'images. Chaque journée apporte à chacun des conversations, des situations et des événements différents, mais aussi des soucis et des peurs, que ce soit dans le cadre familial, avec nos amis, au travail ou dans des activités sportives, par exemple. Nous enregistrons en permanence, mais nous pouvons aussi apprendre à chaque instant. C'est le cas si lors des différentes situations que nous rencontrons ou à l'occasion de conversations, nous nous remettons régulièrement en question en nous examinant nous-mêmes. Qu'est-ce qui me touche? À quoi est-ce que je réagis? Et de quelle manière? Pourquoi est-ce que je m'énerve et suis sur la défensive lorsque je suis confronté à certaines situations, spécialement lorsque mon système nerveux se crispe et ma tension augmente?
Grâce aux répétitions, nous approfondissons ce que nous avons appris. L'un, universel, est l'amour de Dieu et du prochain, dont fait partie l'unité universelle, tout l'infini, tous les astres, tous les animaux, les plantes et minéraux. La vie qui englobe tout, l'un universel, le Dieu créateur, est humilité absolue qui se penche sur l'infiniment petit et qui, dans son amour, l'aide à grandir et mûrir dans le berceau divin de la création, le lieu de naissance de ses enfants. L'Éternel est avec nous, ses enfants humains. Il est à nos côtés. Il nous appelle et nous tend la main. Lui, la véritable humilité, est le Dieu Père-Mère qui prend soin de ses enfants, aussi de nous, ses enfants humains.
Nous apprenons. Sans humilité véritable, pas d'amour de Dieu et du prochain, et sans amour de Dieu et du prochain, pas d'humilité, d'amour et de miséricorde, ni pour nos frères et sœurs de la création, les animaux et les plantes, ni pour la terre, la mère nourricière de l'humanité. La véritable humilité est synonyme de liberté, d'attention et de sollicitude envers les autres, ainsi que de constructivité. L'égoïsme méprise la vie, il est destructeur. Observons-nous et apprenons. Celui qui le souhaite peut apprendre à mesurer les différents schémas comportementaux avec lesquels il jongle chaque jour, aux 10 commandements de Dieu et aux enseignements de Jésus de Nazareth, afin de déterminer s'il fait preuve d'humilité ou si, au contraire, il est un égoïste tyrannique qui, jour après jour, se met lui-même sur un piédestal.
Une autre étape dans notre apprentissage pourrait consister à nous demander ce que les animaux et les plantes veulent nous dire et nous apprendre, et non l'inverse, ce que nous, nous avons à leur dire. Nous saisissons toujours mieux en nous-mêmes que la création divine n'est pas dotée d'intellect, mais de l'intelligence universelle. Les animaux disposent d'une intelligence, car ils vivent dans le souffle de Dieu. L'être humain, devenu humble face à la vie universelle, à l'existence universelle, ne connaîtra pas de miracle avec ses frères et sœurs animaux, mais ils deviendront ses vrais amis, de véritables compagnons capables de lui apprendre bien des choses. Il vaut vraiment la peine de prendre chaque jour un peu plus conscience de l'immensité de la vie qui est en nous. Le noyau central parachevé au plus profond de chaque âme et ainsi de chaque être humain, en chacun de nous.
Chers téléspectateurs, chers amis, il y a beaucoup à apprendre et cela en vaut la peine. Lors de notre prochaine émission, nous continuerons à apprendre comment donner forme au grand jardin d'Éden. Tout d'abord en nous-mêmes, puis nous verrons concrètement et en détail comment nous devrions nous comporter envers nos frères et sœurs de la création, les animaux, comment nous pouvons aller à leur rencontre, comment ils nous perçoivent, nous les êtres humains, et nous verrons qu'ils veulent nous dire et nous apprendre bien des choses. Si vous le souhaitez, retrouvez-nous pour la suite de notre série. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne continuation et vous adressons une chaleureuse salutation en Dieu.